aussi regarder les actualités. Et je ne sais pas pour vous, mais une question s'est posée. Où est-ce que nous allons passer Noël? Et avec qui? Je ne sais pas si vous avez réfléchi. C'est assez anxiogène comme discussion. Allons-nous acheter des cadeaux, pas des cadeaux? Allons-nous nous faire livrer, pas livrer? Et puis après, il y avait, aux informations, il y avait les retraites. Il paraît qu'il y a une loi qui va passer sur les retraites. De quoi nous angoisser, hein, pour ceux qui ne le sont pas encore. Et puis le vaccin. Ah, le vaccin du coronavirus, va-t-il être efficace, pas efficace? Faut-il se faire vacciner? Avec quel vaccin? Bon, toutes ces questions-là sont présentes dans nos pensées. Et depuis déjà une quinzaine de jours, les médias commencent à se rendre compte et à parler de l'impact du confinement dans l'esprit des gens. Et on voit des dépressions, on voit des situations assez compliquées. Et figurez-vous que vendredi soir, en conseil, eh bien, un conseiller nous a préparé, partagé une réflexion qui parlait du confinement. Alors, rien de nouveau, hein. Je ne sais pas quand est-ce que nous serons déconfinés, mais en tout cas, la question était, à quand remonte le premier confinement? Alors, on a dit Noé. Noé était le premier confiné. Bon, après, ce frère nous a dit, oui, il y avait aussi le confinement à la veille de la libération du peuple d'Israël en Égypte, d'Égypte. Ah oui, ça, c'était un confinement, mais bon, de pas très longtemps, hein. Ils étaient peut-être confinés aussi pendant les autres plaies, c'est possible. On n'a pas les dates et la durée. Après, il y a eu l'idée intéressante de quelqu'un qui a été confiné, c'est Rahab. Lorsque Jéricho a été prise par Josué, eh bien, elle devait rester confinée avec voilà, le signal hein, de ce fil cramoisi. Et puis, j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un qui était confiné pendant quelques jours, malgré lui, c'était Jonas. Bon, ce n'est pas l'idéal comme confinement, hein. Être dans l'estomac d'un grand poisson avec le suc gastrique. Je ne suis pas sûr, hein. Peut-être que les 120 étaient confinés dans la chambre haute. Et en fait, ce matin, j'aimerais vous orienter sur la réflexion du confinement et surtout de l'impact de notre pensée dans ce confinement. Alors, au commencement était le non-confinement, le jardin d'Éden. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le problème, c'est que, enfin, l'avantage au jardin d'Éden, c'était que c'était la liberté absolue, hein. Et après la chute, l'homme a dû être confiné sur terre. Et je pense que c'est ça le premier confinement. Vous allez avoir les conséquences de votre désobéissance. Donc, l'homme va être confiné sur terre avec les conséquences du péché, hein. Il est dit dans Genèse 6, verset 5, plus tard, voilà, plus tard, il y a ce péché qui s'est développé, et puis l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Là, je crois que le terme de confinement ben, s'adresse parce que le confinement ne concerne pas les gens. Qui sont forcément bien portants, mais surtout les malades. Alors, nous ne sommes pas malades, mais le but de l'État, c'est d'éviter la propagation. Et voilà que l'homme est prisonnier de ses propres pensées. L'homme est limité dans ses allées et venues dans la liberté et il est privé de toute aise. Hein. Et en fait, au temps de Noé, le mal avait besoin d'être éradiqué. Et là, c'est un confinement d'un point de vue planétaire que nous voyons. Un peu plus tard, Dieu fait cette constatation, Genèse 8, lorsque Noé, un an après, il est resté un an quand même hein, dans l'arche, un an après, lorsqu'il a apporté un sacrifice à Dieu, eh bien, il dit, l'Éternel sentit une bonne odeur, une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Voilà une constatation. Ça veut dire que même après cette rude sentence contre l'humanité, Dieu nous dit que finalement l'homme est dans un état où il reste esclave. Esclave de quoi? Eh bien, esclave de quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Et le problème est là. On peut nous isoler, on peut traiter une maladie, mais il y a une maladie qu'on a du mal à traiter, c'est celle qui est dans notre cœur et dans notre tête. Et Romains 1 le dit, au verset 21 et 22, Paul le dit, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ils ne l'ont pas rendu grâce. Et ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà que l'homme, eh bien, dans ses pensées, s'est égaré loin de Dieu, pensant être sage, croyant être un libre penseur, hein, eh bien, l'homme pensant être en bonne santé, eh bien, il est fou, insensé, malade, sans possibilité d'un raisonnement sain et libre. Alors, au commencement était, et c'est ça le plus grand confinement et le plus profond, c'est le confinement de notre pensée qui a été atteinte par le péché. C'est la prison de notre pensée. Bien sûr, il y a des pensées qui sont bonnes, mais il y a des pensées qui sont mauvaises. Et c'est les pensées mauvaises qui nous perturbent. Il y a des pensées qui nous aident et d'autres qui nous blessent. Il y a des pensées qui nous apportent lumière et des pensées qui nous apportent ténèbres. Alors, Heinrich Arnold disait ceci, lorsque nos pensées, les pensées de l'homme, tournent à l'obsession et commencent à le ronger, il dit ceci, chaque idée, chaque pensée fait pression vers une possibilité de réalisation. Et il ajoute, je connais des personnes qui, au moment d'être troublées par un mauvais désir ou une pensée, voudraient plutôt mourir que de permettre à cette pensée de se réaliser. Et pourtant, leur volonté semble incapable de les épargner d'une telle lutte. C'est comme s'ils étaient poursuivis par cette idée. Ce qui est terrible, chers frères et sœurs, c'est la question de, vous savez, on est chacun chez soi et dans son for intérieur, voilà ces pensées qui viennent nous oppresser. Et je crois que c'est ça qui est compliqué dans la période de ce reconfinement et dont les médias et ce monde prennent conscience de la profondeur et du trouble qui existe dans le cœur de l'homme. Proverbe 4, verset 23, donc nous parle de mécanisme qui a lieu, hein, et ce mécanisme, c'est, et les conséquences, c'est qu'en fait, il y a quelque chose que nous devons garder, et ce quelque chose, c'est notre cœur par-dessus toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors voilà la difficulté, comment garder ce cœur en paix, comment le garder calme, alors que la fatigue, la maladie, la dépression, les soucis, l'âge, le surmenage, toutes ces choses s'accumulent et deviennent hors contrôle. Vous savez, les pensées qui se bousculent comme si l'on semait à tout va. Hein? On sème une pensée dans notre tête et puis voilà que ça tourne à des paroles et puis on passe à l'acte. Alors bien sûr, l'ennemi de nos âmes vient nous susurrer ces pensées comme il l'a fait au Jardin d'Éden. Alors, nous avons plutôt tendance à lui prêter l'oreille. Hein? On dit là, tu sais, ça a l'air intéressant ce qu'il nous propose. Nous pensons à ce qu'il dit, puis nous voyons ses arguments avec ce que la parole de Dieu dit. Et le résultat, c'est est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous allons valider les pensées de l'ennemi? Alors Nancy DeMoss dit que chaque péché dans notre vie trouve son origine dans une pensée mensongère. C'est intéressant, hein? Chaque péché de notre vie trouve son origine dans une pensée mensongère. Elle cite Thomas Brooks, qui était un pasteur puritain, et qui a dit ceci, Satan nous promettra toujours le meilleur, mais il rétribue avec le pire. Il promet l'honneur et il rétribue par la honte. Il promet le plaisir et il récompense par la souffrance. Il promet le profit et nous rémunère par la ruine. Il nous promet la vie et il nous paye avec la mort. Voilà, le principe est là. Une pensée nous est susurrée. Et nous écoutons cette pensée qui vient de l'ennemi, et une défaite est récoltée. Alors, je pose cette question, hein, à chacun d'entre nous. Combien de fois l'avons-nous expérimenté? On pourrait très certainement dire, oh, trop de fois. Hein? Alors, ne pensons pas que c'est juste le problème d'un seul, mais c'est le problème de chaque chrétien, de ses pensées, de ses sentiments qui viennent. D'ailleurs, c'était le problème des hommes de la Bible aussi. Saül voyait en David comment dire, un concurrent sérieux. Et voilà que les pensées de jalousie, le sentiment, l'a poussé à être violent. Même David, le roi David, a eu des pensées immorales vis-à-vis de Bethsabée, puis ça s'est transformé en adultère. Alors on peut penser aussi à la cupidité de Judas, qui a été jusqu'à planter un poignard dans le dos de son maître, pourrait-on dire. Et puis il y a eu la convoitise de Démas. À quel moment a-t-il pensé que l'évangile était moins brillant que la richesse de ce monde? Et Paul dit que Démas les a abandonnés pour l'amour de ce monde. Et Jésus le dit lui-même dans Matthieu 12. Alors, ça, c'est la version parole vivante que j'aime bien parce qu'elle reflète un peu plus cette idée de l'impact de la pensée dans notre vie. Car, dit Jésus, les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. C'est le trop-plein de l'être profond qui jaillit des lèvres. L'homme foncièrement bon, sort de bonnes choses du fond d'un fond qui est bon. Mais celui qui est méchant sortira des méchancetés d'un fond qui est mauvais. C'est le constat de Jésus à ses contemporains qui nous parle jusqu'à maintenant. Moody disait que être tenté n'est pas un péché, mais c'est céder à la tentation qui devient un péché. Alors voilà que des pensées mauvaises peuvent venir. Ce n'est pas un péché, c'est notre nature, c'est notre humanité. Mais c'est céder à cette pensée qui devient un péché. Alors le combat se passe d'abord à l'intérieur. Et je crois que la pensée suprême que le diable a réussi à mettre dans notre cœur, c'est celle-ci. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu peut vraiment me pardonner après tout ce que j'ai fait? Et voilà que le diable susurre dans notre oreille, oh, tu sais, ça sera jamais suffisant, Dieu, pour toi. Il y a tellement de choses à vivre. Ou alors, tu n'es pas digne de son amour. Ou bien, tu n'es pas assez bon. Ou, regarde, regarde ce que tu as fait de ta vie. Comment Dieu pourrait-il valider cela? Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu tard dans la nuit un message d'une jeune fille qui s'était complètement écartée de la foi et de Dieu, hein, et qui retrouvait son comment dire, vous savez, le retour du fils prodigue. Hein, et ces questions-là sont ressorties presque automatiquement. Et je lui ai dit, fais attention de ne pas écouter ces pensées qui ne sont pas de Dieu. Hein, et qu'au pied du Seigneur, eh bien, ces pensées devraient être vraiment élucidées, alors et être réglées. Alors, comment faire pour ne pas nous enfermer dans des pensées qui ne seraient pas justes, hein, d'un point de vue de Dieu? Y a-t-il un remède? Alors, vous savez, le monde nous propose un remède. Je ne sais pas si vous connaissez Norman Vanspil, hein. Alors, Norman Vanspil, c'est le maître de la pensée positive. Vous savez, Donald Trump est un adepte de cette pensée positive. Hein. Alors, ça a du bon parce que ça permet de développer l'optimisme et de le cultiver, c'est vrai, mais ça ne résout pas tous les problèmes et ça a ses limites. Donald Trump pense qu'il a pensé à être président, il est devenu président. Alors, la dernière fois, j'étais à la pharmacie pour prendre des médicaments pour Annie, et il y avait une dame qui était devant moi, et qu'est-ce qu'elle était longue, hein? Et alors, moi, je me suis dit, dans ma pensée, je me suis dit, ah, si elle pouvait quitter la caisse là maintenant. Et d'un coup, elle sort, ah, mais excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Et je me suis dit, ah, mon impact de la pensée a touché sa pensée. Mais non, elle n'avait rien oublié, c'était juste qu'elle avait oublié encore d'acheter des choses et elle restait encore plus longtemps. En tout cas, ça ne marche pas toujours, hein. La preuve, c'est que même les sondages avec la pensée positive d'un président non réélu, ben, il reste non réélu, hein, même s'il pense le contraire. Alors, bien sûr, le remède ne se trouve pas là, hein. Où se trouve notre remède à nous? Eh bien, tout d'abord, la Bible nous dit dans le psaume 139 que nous avons besoin d'identifier nos pensées. Identifie tes pensées. Quelle belle parole du psalmiste. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, identifier ses pensées, c'est d'abord soit honnête avec Dieu, soyons honnêtes avec lui. Ouvrons-lui notre cœur. Laisse-le te montrer ce qui ne va pas. Et vous savez, ça nous fait peur, hein? Ça nous fait peur et on n'a pas envie de savoir ce qui ne va pas. Donc, on dit, ben, on va rouler comme ça, on va continuer, on verra plus tard, hein? Et ça se passe dans la prière. Et parfois, la prière seule ne suffit pas. Il y a besoin que quelqu'un d'autre nous écoute et ou avec qui nous pouvons déposer nos pensées qui nous rongent. Hein? Besoin d'identifier, ça veut dire que, vous savez, quand on commence à identifier, ben, on a honte. Parce qu'on n'est pas fier de nos pensées. On n'est pas toujours, voilà, toujours d'accord avec ce qui se passe dans nos têtes. Hein. Alors ça peut provoquer la honte, le remords et même la culpabilité. Vous savez, le problème de Ève, c'est que quand elle a été tentée par le diable, elle n'a pas pris le temps de réfléchir sur ce qu'elle était en train de faire. Elle a été dans l'immédiateté. Alors le fait d'identifier nos problèmes devrait nous permettre de révéler ce qu'il y a vraiment en nous. Vous savez, l'apôtre Paul le fait à sa manière. Hein? Dans Romains 7, il dit, je sais que le mal n'habite pas en moi. Je veux faire le bien, je n'y arrive pas. Je ne veux pas faire le mal et je ne le fais. Alors, il existe bien sûr une tension en nous. Hein? Mais la vraie question, c'est vers qui est-ce que je vais me tourner? Et dans le cœur de l'apôtre Paul, il y a cette lumière qui lui dit, eh bien, Seigneur, c'est de toi que viendra ma délivrance. Alors, c'est un sujet qui est important parce que si nous n'identifions pas nos pensées, vous savez ce qu'on finit par faire? On finit par porter un masque devant tout le monde pour pas que les autres découvrent ce qui ne va pas. Et Dieu nous dit, règle d'abord ce qui ne va pas devant moi. Je vais apporter la lumière. La deuxième des choses, c'est cette question, hein. Devons-nous lutter ou entretenir les pensées que nous avons? À qui donnes-tu le pouvoir? Qui va avoir autorité sur ta pensée, sur tes pensées? L'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements, hein, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à Christ. Alors là, il y a le travail de la volonté spirituelle que Dieu produit en nous, qui refuse de devenir esclave de la chair. On pourrait se poser la question, hein, quelle est la pensée que j'ai? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce que cette pensée s'accorde avec la parole de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit peut valider cette pensée? Et quel acte cette pensée va-t-il produire? Alors Paul nous dit que nous avons besoin d'amener cette pensée à Christ, hein, de lui donner le pouvoir d'agir selon la volonté. Je ne sais pas si vous connaissez Ignace de Loyola, c'est le fondateur des Jésuites. Bon, il n'a pas toujours été copain avec les protestants, hein, mais il a quand même écrit de bonnes choses, hein. Alors Ignace de Loyola disait ceci, il faisait une différence entre les pensées de consolation que nous pouvons avoir, c'est-à-dire celles qui apportent la vie, la joie, la paix, le fruit de l'esprit, et les pensées de désolation, c'est-à-dire celles qui apportent la mort, les troubles intérieurs, les inquiétudes qui nous rongent, les turbulences spirituelles. Et en fait, il avait fait un parallèle avec ce que dit 1 Jean 4, quand l'apôtre dit, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Et il disait, ces esprits, ça peut être bien sûr des choses que l'on entend, mais ça peut être aussi des pensées que nous pouvons avoir, hein. Et on peut reprendre en disant, ne vous fiez pas à n'importe quelle pensée que vous avez. Mettez ces pensées à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Je trouve ça remarquable de voir qu'il y a pour nous le besoin de donner le pouvoir sur nos pensées à l'Esprit de Dieu qui habite dans notre vie. Et Paul le dit, hein, que nous sommes appelés à revêtir la nouvelle nature, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté, c'est dans Éphésiens 4, 24, que produit la vérité. Et c'est la vérité qui va me donner le pouvoir sur ma pensée, parce que bien souvent, nos pensées sont des pensées mensongères. Alors, un dernier point, nous avons dit que pour affronter ces pensées, pour ne pas être enfermé, emprisonné dans ces pensées, eh bien, on a besoin de les identifier, de donner le pouvoir au Seigneur. Et puis, le dernier point, c'est Laisse Jésus penser à toi. Penser en toi. Alors, Jésus pense à nous, hein? Nous pensons à lui. Mais est-ce qu'il pense en nous, en toi, en moi? Dans 1 Corinthiens 2, il est écrit, en effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Évidemment, personne. Personne ne va dire à Dieu, fais ceci ou fais cela. Et Paul ajoute, or, nous avons la pensée de Christ. Et ça, c'est absolument remarquable. Ça veut dire que tu peux intégrer tous les jours de ta vie, à chaque instant, cette idée que le Seigneur peut penser à travers toi, à travers moi. Il y a un calendrier chrétien qui a pour devise ceci, hein, un éditeur, hein, chrétien, pardon, mettez du divin dans votre quotidien. Alors, je trouvais ça formidable, hein? Mettez du divin dans votre quotidien. Nous avons besoin de dire au Seigneur, écoute, je veux te laisser penser à travers moi. Mets Dieu dans ta pensée. Laisse-le penser à travers toi. Face aux pensées qui viennent nous embrouiller, nous détruire, nous déstabiliser, on a besoin de dire au Seigneur, Seigneur, je sais que je t'appartiens, que je suis à toi et que tu es dans ma vie. C'est ainsi que nous aurons la pensée de Christ. Alors, en conclusion, je dirais ceci, certainement, nous aurons encore des rechutes, hein? Nous aurons des échecs, nous exprimerons des colères, des pensées non justifiées, des moments humiliants, mais c'est toujours avec foi que nous devons croire que le Seigneur est vainqueur dans ce domaine. Vous savez, Carmen nous a parlé de ce texte, hein, il a cité le texte d'Abraham qui va apporter son fils en sacrifice. Et s'il n'y avait pas dans la tête d'Abraham, ce que nous dit Hébreux 11, hein, cette pensée qu'il savait que Dieu de toute manière allait le ressusciter, Abraham n'aurait jamais été jusqu'au bout de cette action que Dieu lui demandait. Alors que nous puissions mettre au centre encore, rappeler que c'est avec foi que nous devons penser, que nous devons laisser nos pensées entre les mains du Seigneur et combattre aussi, parce que voilà, ces mauvaises pensées viennent afin de ne pas nous laisser écraser. Et je vous laisse avec ce verset de Paul. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de l'apôtre, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, dit Paul, mettez-le en pratique, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous donne d'être constamment connectés à lui dans ces périodes où il y a tellement de chamboulements, et même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort de nos pensées, Jésus nous dit qu'il sera avec nous et que son bâton et que sa houlette sera notre appui. Que Dieu vous bénisse.